Dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, les chefs religieux essayent de coincer Jésus en lui amenant une femme adultère pour qu'il la juge et la condamne selon la loi qu'il disait suivre à la lettre. Mais en réalité, cette pécheresse, ils en avaient que faire. Ce qu'ils désiraient, c'était pas la mise à mort de cette femme, mais de Jésus lui-même. La foule est donc là tout autour de cette femme qui a été traînée et littéralement jetée à ses pieds. Mais Jésus ne la regarde même pas et il évite de répondre à la question piège. Il sait très bien où la faune religieuse veut en venir. Il se baisse et se met à dessiner ou imprimer quelque chose sur le sable. À ce qu'on sache, c'est la seule fois qu'il a écrit, mais ce fut bien vite effacé. Que pouvait-on lire sur le sol dans le parvis des femmes autour du tabernacle? Nous n'en avons aucune idée, bien sûr, et les spéculations vont bon train. Était-ce un commandement de la loi? Un passage prophétique, les noms des dirigeants religieux avec leurs fautes secrètes, à chacun sa réponse. Je continue le texte. Eux, ils insistaient répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Verset 7. En parlant de péché, Jésus reconnaît implicitement la culpabilité de la femme. La loi exigeait que les témoins lancent les premières pierres. Je lis le passage. C'est seulement sur la déposition de deux ou de trois témoins qu'on le mettra à mort. Les déclarations d'un seul témoin ne suffiront pas pour cela. Les témoins seront les premiers à lui jeter des pierres pour le mettre à mort et le reste du peuple interviendra ensuite. Ainsi, vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. Fin de citation. Jésus va beaucoup plus loin que la seule question de l'adultère. Il met en cause la motivation de ses ennemis. Ni les interprètes de la loi, ni les pharisiens n'ont une attitude moralement juste, puisqu'ils utilisent cette femme pour tendre un piège au Seigneur. Il prononce son jugement, mais d'une façon qui rend impossible son exécution. On a envie de crier « Bien joué !» Jésus a donné les conditions à remplir pour devenir bourreau. « D'accord, selon la loi, vous pouvez condamner cette pécheresse. Mais à condition que vous soyez vous-même sans faute. Alors allez-y, montrez-vous sans pitié et exécutez cette femme. » Voilà où nous en sommes dans ce récit. Moi, je ne vous connais pas, mais en ce qui me concerne, je ne serai pas un lanceur de pierre. La seule personne parfaitement juste qui avait le droit d'exécuter la loi était le Seigneur lui-même. Je continue le texte. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Versets 8 et 9. Mais qu'est-ce que Jésus est en train d'écrire dans le sable? J'ai beau me creuser la cervelle, je ne vois pas. Donc, les plus âgés, ceux qui ont eu davantage d'occasions d'enfreindre les commandements de la loi, se retirent du jeu les premiers. La mise est trop haute. Puis les jeunes loups finissent par comprendre que ça sent le roussi, tout ça, et que finalement, ils ne sont pas aussi innocents qu'un agneau qui vient de naître. Alors ils se souviennent subitement qu'ils ont mieux à faire ailleurs. Je continue. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?»« Personne, Seigneur, lui répondit-elle. » Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » Versets 10 à 11. Si la loi est venue par l'intermédiaire de Moïse, Jésus proclame la grâce, ce qui n'est pas une faiblesse de sa part. En effet, Il dénonce bien le péché de cette femme puisqu'il lui dit de ne plus recommencer. Il n'approuve évidemment pas sa liberté sexuelle, mais lui offre le pardon. Auparavant, dans cet évangile, le ministère du Christ a été défini en ces termes. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Fin de citation. Et plus tard, Jésus lui-même dira à ses interlocuteurs, « Ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. » Fin de citation. Il n'a pas aboli la loi, mais l'a accomplie parfaitement dans sa vie, puis dans sa mort. Il a pris sur lui le châtiment de tous ceux qui, se reconnaissant pécheurs, viendront à lui pour recevoir le pardon de leurs fautes. Tel un agneau sans défaut, parfaitement innocent, il fut exécuté à la place des coupables. Toutes les entorses à la loi sont en dernière finalité dirigées contre l'Éternel lui-même. Par la croix, Dieu a lavé toutes les fautes de l'humanité dans le sang de son Fils, ce qui permettait, en parfaite justice, d'accorder la vie éternelle aux croyants repentants. Il a mis le vêtement pouilleux des péchés du monde sur le Christ, tandis qu'il couvrait le pénitent du manteau de justice de son Fils bien-aimé. Le crime le plus odieux, l'acte le plus vil commis par le plus dépravé des êtres humains, est expié par le sacrifice du Christ. En fait, il est tout à fait impossible de se rendre coupable de quoi que ce soit qui ne puisse être pardonné. Un texte de l'apôtre Paul dit ceci et je le cite. « Là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. » Fin de citation. Seul le refus d'accepter Jésus comme sauveur condamne à la mort éternelle. Je continue le texte. Jésus parla de nouveau en public. « Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Verset 12. Comme j'ai déjà fait remarquer, à cette reprise, Jésus déclara « Je suis » dans l'évangile de Jean. « Je suis le pain de vie, la lumière du monde, la porte des brebis, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie. » Et enfin, la septième, « Je suis le vrai cep. » Ici, c'est la deuxième fois qu'il dit « Je suis ». Or, dans l'Ancien Testament, l'Éternel déclare « Je suis celui qui suis ». Je cite le passage exact. Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis » et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Fin de citation. Cette façon par laquelle l'Éternel se présente à Moïse veut dire qu'il existe en lui-même, par lui-même et ne dépend d'aucun être. Jésus vint sur terre non seulement pour réconcilier les hommes avec leur Créateur, mais aussi pour révéler la nature de Dieu. Pendant la fête des cabanes, deux grands candélabres étaient placés dans la cour du temple pour rappeler la nuée de feu par laquelle l'Éternel dirigeait son peuple lors de leur sortie d'Égypte. La lumière dans les Écritures est un symbole de la sainteté et de la justice divine. Dans une de ses lettres, vers la fin du Nouveau Testament, l'apôtre Jean écrit « Dieu est lumière ». Ici, c'est Jésus qui, en sa personne, éclaire le monde, c'est-à-dire celui des ténèbres, des péchés et du mal, et de tout ce qui se fait en cachette, dans l'obscurité. Il est la révélation de Dieu qui a le pouvoir de sauver et de transformer une vie. Ce discours est la suite de l'enseignement public que Jésus donna précédemment dans le temple. Il n'est pas une simple lumière parmi d'autres, mais la seule, la véritable, celle qui éclaire le monde et tout homme. Jésus utilisait les choses simples et courantes de la vie de tous les jours, comme le pain, l'eau, la vigne, la lumière, pour communiquer les vérités de Dieu. Il illustra l'éternité au moyen du temporel. Il expliqua l'au-delà avec l'ici et maintenant. Il dessina les réalités célestes avec des images terrestres et ce qui est infini avec l'éphémère. En tant que lumière du monde, Jésus vint pour exposer le mal. La femme adultère avait été surprise en flagrant délit, certes, mais les fautes des religieux furent pareillement dévoilées en la présence de Jésus. C'est alors que, troublés dans leur conscience et vexés dans leur orgueil, ils s'enfuirent loin de cette clarté aveuglante qui émanait du Seigneur et qui les accusait. Quand on éclaire un endroit sombre, tout ce qui est de rats, chauves-souris et cafards déguerpisse en toute vitesse. La lumière est pour nous vitale et on l'apprécie surtout quand le soleil reste caché pendant plusieurs jours et que finalement il revient. D'ailleurs, voici un petit passage poétique de l'Ancien Testament que j'aime bien. Je le cite. « La lumière est douce et il est bon de voir le soleil. Tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que n'adviennent les jours mauvais et avant que ne viennent les années dont tu diras « Je n'y prends pas plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil, la lumière et que la lune et les étoiles ne perdent leur éclat et que les nuages reviennent après la pluie. » Fin de citation. Sans lumière, il n'y aurait que du gris autour de nous. Une rose est rouge parce que les autres couleurs du faisceau de l'arc-en-ciel ont été absorbées par la fleur et on ne voit que celle qui est reflétée. Physiquement, la lumière est un élément très complexe et paradoxal. C'est à la fois une émission de particules et d'ondes, deux caractéristiques apparemment contradictoires, et pourtant bien présentes simultanément. Tout comme le soleil est la lumière de la terre, Jésus est celui qui éclaire les hommes dans le monde spirituel. Tout comme la lune réfléchit la clarté du soleil, les réalisations louables de la civilisation occidentale, telles que les écoles, les orphelinats, les hôpitaux, la notion de charité, la protection de l'enfance, de la veuve, des démunis et des plus faibles, tirent leurs origines de notre héritage judéo-chrétien. Tous nos contemporains croient que ces accomplissements sont de très bonnes choses et marchent à la clarté de la lune. Ils ont besoin de se tourner vers la lumière du soleil, celle qui émane du Christ. Dans le désert, Israël suivait la colonne de feu qui ouvrait sa marche dans les ténèbres de la nuit. Lors de la fête des cabanes, les Juifs se souvenaient de cet épisode de leur histoire par une procession au flambeau. C'est alors que cette commémoration est dans tous les esprits que Jésus s'adresse à la foule pour lui dire « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette déclaration de Jésus fut particulièrement percutante. Suivre le Christ n'est pas un exercice mental, mais veut dire croire en lui au point de lui obéir. C'est une référence à la vie éternelle. Lorsque quelqu'un a véritablement compris la personne et l'œuvre de Jésus, qui il est et pourquoi il est descendu sur terre, sa vie de tous les jours devient différente de ce qu'elle était auparavant. Il ne demeurera plus dans le monde du mal et de l'ignorance, au sens très large du terme, et qui dépasse le cadre de cette étude de l'Évangile de Jean. Une telle personne marche maintenant avec le Christ et possède la lumière de la vie en elle. L'apôtre Paul l'exprime ainsi. Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Fin de citation. Je continue le texte. Là-dessus, les pharisiens lui répondirent, « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Oui, je me rends témoignage à moi-même, mais mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. » Versets 13 à 14. Encore une fois, les pharisiens, ces religieux, mettent les paroles de Jésus en doute. Il est vrai que la tradition rabbinique rejetait tout témoignage d'une seule personne. Cependant, il arrive que ce soit l'unique et seul moyen de faire connaître la vérité lorsque nul autre ne connaît les faits qui la concernent. Dans le cas de Dieu, Jésus seul peut parler pour lui-même, et c'est justement ce qu'il est en train de dire. Il a une pleine connaissance de son origine et de sa destinée céleste. Les pharisiens ignoraient tout de lui. Je continue le texte. Vous jugez selon des critères purement humains. Moi, je ne juge personne. Et à supposer que je porte un jugement, ce jugement est vrai, car je ne suis pas seul pour juger, mais avec moi, il y a aussi le Père qui m'a envoyé. Versets 15 à 16. Les religieux avaient évalué la personne du Christ en fonction de leur compréhension du monde et de leur religion. Ils ne percevaient pas sa dimension divine, et c'est la raison pour laquelle ils se méprenaient sur son compte. Jésus, par contre, n'était pas venu pour porter un jugement sur eux, mais pour sauver les hommes. Et de toute façon, quoi qu'il décide, il fait tout en concert avec son Père qui l'a envoyé. Je continue. Le témoignage commun de deux personnes n'est-il pas vrai? C'est ce qui est écrit dans votre loi. Eh bien moi, je suis mon propre témoin et le Père qui m'a envoyé me rend témoignage. Versets 17 et 18. Selon la loi, il faut deux témoins pour qu'un récit soit considéré comme vrai. Dans le cas de Jésus, ceux-ci sont Dieu, le Fils et Dieu, le Père. Selon les coutumes en vigueur, en invoquant le témoignage du Père en sa faveur, Jésus s'engage par serment sur la véracité de ses paroles. Les signes miraculeux que le Seigneur accomplissait témoignaient de l'approbation du Père. Je continue. « Mais où est-il ton Père ? » s'exclamèrent-ils. « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, répliqua Jésus. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus parla ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple près des troncs des offrandes et personne n'essaya de l'arrêter parce que son heure n'était pas encore venue. Versets 19 et 20. Jésus enseignait que Dieu était son Père avec qui il entretenait une relation intime, ce qui agaçait les pharisiens au plus haut point parce qu'ils ne voulaient pas admettre que Jésus était un être céleste. Ils voulaient le rattacher à un simple procréateur humain. Ils ignoraient la naissance virginale de Jésus. Le Père et le Fils sont tellement indivisibles qu'ils marchent constamment en unisson. Accepter les paroles du Christ, c'est connaître Dieu. Toutes ces paroles ont dû rendre les religieux fous furieux. Mais comme le fait remarquer l'apôtre Jean à plusieurs reprises, nul ne pouvait se saisir de Jésus tant que son ministère sur terre n'était pas terminé. Je continue. Jésus leur dit encore, « Je vais m'en aller et vous me chercherez, mais vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Sur quoi ils se demandèrent entre eux, « Aurait-il l'intention de se suicider ? » Est-ce là ce qu'il veut dire par ces paroles « Vous ne pouvez pas aller là où je vais » Versets 21 et 22. Très bientôt, Jésus retournera dans les cieux et alors tous ceux qui l'ont écouté et qui ne l'ont pas cru mourront dans leur péché, celui de l'incrédulité. Il n'y aura pas de seconde chance pour eux. Les auditeurs refusent de comprendre les paroles de Jésus, cependant leur question « Aurait-il l'intention de se suicider ? » est quelque peu prophétique. En effet, même si le Seigneur ne s'est pas donné la mort, il a toutefois offert sa propre vie en tant qu'agneau de Dieu. Je continue. « Vous, leur dit-il, vous êtes d'ici bas. Moi, je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde. Si, moi, je ne lui appartiens pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Verset 23. Jésus attira l'attention de ses auditeurs sur son origine céleste et sur sa vraie demeure qui est d'en haut. Ceux qui le rejetaient devraient payer eux-mêmes pour leur propre faute, ce qui est une référence au châtiment éternel loin de la présence de Dieu. Cet avertissement s'adresse également à moi. Si je n'accepte pas Jésus, le Fils de Dieu, je me condamne moi-même à tout jamais. En disant « si vous ne croyez pas que moi je suis », Jésus s'identifie à l'Éternel qui s'était présenté à Moïse sous le titre de « celui qui suit ». Je continue. « Qui es-tu donc ?» lui demandèrent-ils alors. « Je ne cesse de vous le dire depuis le début, leur répondit Jésus. » Verset 25. Les Juifs refusent de croire les paroles du Seigneur. En outre, ces paroles au sujet de leurs péchés les ont mis en colère. Je continue. « En ce qui vous concerne, j'aurai beaucoup à dire, beaucoup à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je proclame au monde ce que j'ai appris de lui. » Comme ils ne comprenaient pas que Jésus leur parlait du Père, il ajouta, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. » Versets 26 à 28. Et avec ces versets, je termine pour aujourd'hui.